Mémoire vive,
présentée par Perrine Kervran
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour à tous, comme tous les dimanches, Mémoire vive met au présent l'histoire culturelle du judaïsme et la mémoire de la Shoah. On ne peut plus dormir tranquille quand on a une fois ouvert les yeux, c'est le titre emprunté au poète Pierre Reverdy du dernier roman de Robert Baubert, un roman qui évoque l'itinéraire d'un fils, Bernard Applebaum, dans les méandres de son histoire familiale. C'est aussi un livre sur les coïncidences qui, l'une entraînant l'autre, permettent de grandir. C'est donc un fils qui, faisant de la figuration sur le tournage de Jules et Jim, découvre que sa mère, elle aussi, a été aimée de deux hommes, son père, mort à Auschwitz, et le père de son demi-frère, mort dans le même crash d'avion que celui qui a coûté la vie à Marcel Cerdan. Bernard va alors dérouler la pelote qui va le ramener vers son père disparu, et sur ce chemin, on trouve sa grand-mère Boubée, son petit frère Alex, la Pologne des années 20, le Paris populaire, l'évocation de la Commune ou de la guerre d'Algérie, des premières amours et le cinéma qui habite ce film et lui donne son fil directeur. Avec nous pour en parler, Robert Baubert. Robert Baubert, bonjour.
Bonjour.
Pour commencer, vous êtes un écrivain tardif, alors on vous le dit beaucoup. Vous avez commencé à 63 ans avec Quoi de neuf sur la guerre, un livre qui a reçu le prix du Livre Inter. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous mettre à écrire ?
On m'a poussé à me mettre à écrire.
C'est quelqu'un alors ?
C'est quelqu'un. En fait, j'écrivais déjà les commentaires de mes films. Et alors, il faut savoir que lorsque on a quitté l'école à 14 ans et demi, on ne se dit pas qu'on va être écrivain un jour. Et même quand on fait des films, on ne se dit pas qu'on va être écrivain un jour. Mais comme je faisais des films à la première personne, j'écrivais les textes. Et c'est Pérec, Georges Pérec, avec qui j'ai fait le film Les Récits d'Ellis Island, film qu'on a fait parce qu'il souhaitait faire un film avec moi après avoir vu le film que j'ai tourné en Pologne. Je vais raconter une histoire un jour, et il me dit, faut que tu l'écrives. Alors je lui dis non, l'écrivain c'est toi, moi je sais faire des films, enfin je crois savoir faire des films, mais l'écrivain c'est toi. Il dit non, il faut que tu l'écrives, c'est ton histoire. Voilà. J'ai laissé le temps passer. Et comme cette histoire, j'avais toujours envie de l'écrire, enfin en tout cas de l'avoir sur papier, je me suis mis à l'écrire, 8 pages, une nouvelle, que j'ai mis dans un tiroir. Et des années après, en classant les papiers, je suis tombé dessus. Et comme ça me paraissait pas mal, je l'ai montré à un éditeur, Paul Tchaïkovski Laurence, non pas pour qu'il le publie, parce que, à ma connaissance, un livre de 8 pages, ça n'existe pas. Et il m'a dit, je veux la suite. Alors, je lui ai dit, la suite de quoi ? Et bien, la suite de ce que vous avez raconté là. Alors, j'ai dit, mais il n'y a pas de suite, puisqu'il y a un début et une fin, puisqu'il y a une fin. Il dit, non, c'est une fausse fin, moi je sais. Et voilà, effectivement, lui, il était éditeur, il savait mieux que moi. Encore que j'étais assez épaté de savoir qu'il savait des choses sur moi que je ne savais pas. Et puis il a eu raison, puisque ces 8 pages, c'est le premier chapitre de Quoi de neuf sur la guerre, qui a eu le parcours que l'on sait.
Alors votre livre, ce dernier livre, est un peu comme une partie de cache-cache, puisque vous n'êtes pas le narrateur du livre, le narrateur donc est Bernard Applebaum, mais vous l'êtes un peu quand même. Par contre, vous êtes un des personnages du livre, ce Robert qui ouvre les portes du cinéma à ce jeune homme qu'il a connu dans les maisons d'enfants de la Commission centrale de l'enfance, la maison donc des enfants orphelins des déportés, où vous-même vous avez travaillé. Comment avez-vous trouvé votre place dans ce texte et pourquoi avoir cédé à un autre la place du narrateur ?
Parce que ça me... Il doit y avoir plein de raisons. Ça me gênait d'être le narrateur, mon propre narrateur. Enfin, alors c'est peut-être parce que je fais des documentaires que la fiction s'introduit dans mes livres. Et voilà, de toute façon, je ne voulais pas être le personnage principal. Et comme il y a beaucoup de gens dans ma vie qui m'ont servi de passeur, je me suis dit que le rôle de passeur, ça serait peut-être pas mal. Donc le personnage principal est plus jeune que moi, Bernard Applebaum, né en 40, moi je suis né en 31. Donc je deviens un personnage du livre, je ne suis plus moi, enfin je suis un peu moi quand même. Et voilà, une fois que je le mets sur les rails, après je me retire du livre. et lui fait sa quête. Alors bien évidemment, je mentirais si je disais que je ne suis pas du tout Bernard Applebaum, on est toujours un peu... Et puis il y a un troisième personnage que j'appelle l'homme aux cheveux blancs, qui est bien plus âgé, et voilà, avec l'âge que j'ai, je peux m'autoriser à être un garçon de 20 ans, parce que ça j'en ai encore quelques souvenirs, et puis à être un homme de plus de 70 ans. Et le fait d'être passeur, c'est pour moi une manière de rendre hommage aux gens que j'ai rencontrés, qui m'ont aidé. Et voilà, il y en a quelques-uns que je cite là. D'ailleurs, il y a des gens qui m'ont aidé sans qu'ils le sachent. Je pense à Appomarx, à Max Ophuls, à Vladimir Jankélévitch.
Alors si on continue dans cette idée, effectivement, de l'hommage, au fur et à mesure que l'on vous lit ou que l'on regarde vos films, on retrouve des traces, des liens, des événements qui ont compté, qui comptent, qui prennent de la place. Alors cette jeune femme qui s'occupait d'enfants orphelins, qui est morte lors de la manifestation de février 62 au métro Charonne pendant la guerre d'Algérie, la voyante de la rue Villain qu'on retrouve dans le film consacré à Pérec et à la rue Villain, la photo du grand-père avec son étoile jaune cousue sur le vêtement qu'on retrouve à plusieurs endroits. C'est finalement aussi les clins d'œil à Georges Perec avec ce formidable jeu qui consiste à apprendre par cœur le boulevard Saint-Martin. Est-ce que pour vous, certaines images, certaines scènes sont devenues comme des petits cailloux que vous semez dans votre œuvre, comme des pierres qu'on dépose, ces pierres qu'on dépose sur les tombes de ceux qui ont disparu?
Oh oui, l'expression des petits cailloux me convient bien. Il y en a d'autres qui ont parlé de puzzle, ça me convient aussi, ou de ronde, une ronde où on se donne la main. Voilà, tout ça me convient parfaitement parce que c'est juste. Et je crois ma vie a été faite comme ça, de rencontres successives qui ont été déterminantes, même si on n'a pas conscience au moment où ces rencontres se font. Mais ça peut être des rencontres, pas seulement avec des gens, mais en face d'événements. Enfin, vous avez évoqué la manifestation de Charonne où il y a eu 8 morts, qui renvoie à la manifestation de Pszczytyk en Pologne, où il y a eu également 8 morts, et où les parents de Bernard se sont connus. Je crois que voilà, il y a beaucoup d'échos. Je crois que les événements se font écho, de même que lorsque je dis que j'ai trouvé ça dans un texte de Lisa Garay, qui est un historien de la Commune, que les Versaillais fusillaient Paris, et Paris était assiégé, et les gens continuaient à aller au restaurant, continuaient à aller au théâtre. Et voilà, donc ça m'a renvoyé au 16 juillet 42, où la vie a continué alors qu'il y a eu près de 13 000 personnes arrêtées. Alors donc je crois que l'histoire, elle est pas l'histoire présente doit se lire à partir d'une histoire passée.
Et alors vous dites aussi dans ce film dans ce film.
Mais je fais moi-même le lapsus très souvent.
Vous dites aussi dans ce livre quelque chose d'assez essentiel sur la question de la fiction et sur la question de qui doit raconter l'histoire, finalement ceux qui l'ont vécu, et sur le fait que voilà, la fiction finalement n'a pas sa place, alors que vous êtes si amoureux du cinéma de fiction et que vous écrivez des romans. Donc il y a aussi cette espèce de de hiatus sur cette question de la fiction.
Oui, mais j'ai besoin de m'appuyer sur le réel pour imaginer. Et tous mes livres commencent par, que ce soit Bergebec ou le dernier, par le tournage de Jules et Jim. Le tournage de Jim, je l'ai vécu dans le lieu que je raconte, etc. Donc voilà, une fois que le réel est en place, à partir de là, je peux imaginer. Et bien sûr, il ne faut surtout pas que le lecteur décèle le vrai de l'imaginaire. D'ailleurs, personne ne le trouve.
Alors, si on reprend le fil de votre livre, il s'agit donc d'un jeune homme qui cherche à savoir ce qu'a été la jeunesse de ses parents, qui a été son père, et qui cherche à recréer le lien entre son demi-frère et sa tante qui vit à New York. C'est donc aussi un livre sur la filiation et sur son importance. C'est la filiation qu'on connaît, celle qu'on doit découvrir, celle qu'on doit inventer aussi parfois.
Oui, mais il cherche à le savoir. Il y a quelque chose en lui qui cherche. Il y a un manque, qui est bon, l'absence du père. Et il vit avec ça, parce que bon, il a aucune mémoire de son père, d'ailleurs, comme le petit frère. C'est pourquoi je fais dire au personnage, je ne me souvenais pas de mon père, mais je me souvenais du père de mon frère qui, lui, ne s'en souvenait pas. Donc voilà, malheureusement, il y a aussi cette transmission-là. Et s'il a cette curiosité totale, absolue, quand il va au marché aux puces, apparemment, il n'y a rien dans le marché aux puces qui va pouvoir le renvoyer à quelque chose de sa vie personnelle. Et pourtant, il y a des photos, il y a quelque chose, il y a une mémoire comme ça. Moi, ça me désole de voir des albums photos traîner par terre, des albums d'une famille entière. C'est un truc que je ne comprends pas. J'ai même acheté un jour d'albums photos en me disant que je faisais peut-être quelque chose de sacrilège, parce que c'est peut-être qu'un membre de la famille l'aurait trouvé, mais enfin bon, c'est là. Et voilà, donc c'est à la fin qu'il comprend ce que toutes ces rencontres, l'importance de toutes ces rencontres. Et même lorsqu'il assiste au cours de Vladimir Jankélévitch, ce fameux cours qui a été enregistré, que j'ai écouté pendant des semaines entières, parce que c'était l'enregistrement, malheureusement, je ne l'ai pas connu. Et voilà, sur l'instant, sur le moment qui passe. Et tout ça le nourrit et qui lui permet ensuite de faire ce dernier voyage.
Oui, donc, parce qu'on peut le dire, donc le personnage de Bernard va à Auschwitz.
Oui, mais sans dire ce qu'il va y trouver exactement.
Voilà, donc on ne sait pas, il ne sait pas ce qu'il va y trouver. Il se retrouve finalement face à ce qu'il attendait et à ce qui lui redonne sa place.
Voilà, mais il lui a fallu quelques années pour savoir que ça aussi. Et là, j'ai repris la phrase que j'avais mise dans Réfugiés provenant d'Allemagne à partir de Polonais. Je retourne en Pologne sans y être jamais allé.
Alors, il y a des personnages aussi, Robert Bobert, dans ce livre, des personnages, un personnage d'enfant notamment, qui est très réussi, comme souvent vos personnages d'enfants qui ne sont jamais mièvres. Donc, ce petit Alex, petit frère provocateur, drôle malgré lui, toujours en colère. Et puis, cette grand-mère, Boubé, qui pendant la guerre a dû faire semblant d'être muette, car vous dites que chacun de ses mots était comme une étoile jaune. Comment sont nés ces personnages ?
Alors, le petit frère, c'est parce que, effectivement, parce que les enfants sont toujours très présents dans ce que j'écris. Et puis j'ai deux garçons qui ont grandi, qui sont adultes maintenant, puisque je suis grand-père. Et voilà, j'ai toujours été. Il y a un tas d'histoires qui leur sont arrivées, des attitudes. Vous avez raison, Alex, c'est certainement le personnage pour lequel j'ai le plus de tendresse. Parce que c'est un enfant qui dérouille en même temps, mais il a une énergie qui fait qu'il ne va pas se laisser faire. Et c'est peut-être un personnage que je vais reprendre adulte dans un autre livre, je ne sais pas encore, mais voilà, j'ai du mal à le quitter.
Alors, comme la plupart de vos livres, il y a cet humour qui est très présent, cet humour qui est aussi la politesse de ceux qui sont désespérés, un humour qui a donné son titre à votre premier livre, cette citation de Cholem Aleichem. Parlons plutôt de quelque chose de gai, quoi de neuf sur la guerre.
Ben ça, c'est c'est pas seulement. Cholem Aleichem a dit ça pour de bonnes raisons, mais c'est également quelque chose que j'ai vécu lorsque j'étais tailleur dans les ateliers. Alors, il faut savoir que les ateliers étaient des lieux. Les ateliers étaient des c'était la pièce principale.
C'est bon, vous pouvez y aller.
L'atelier était la pièce principale de l'appartement, ce qui fait qu'on voyait les enfants courir dans l'atelier, on entendait la radio. Puis quand on passe plusieurs heures par jour, pendant des semaines, on ne passe pas son temps à pleurer, quels que soient les événements dont on a pu être victime. Et alors, les chansons sont là, et puis les rires, les blagues, et puis d'un seul coup les larmes. Voilà, tout ça se mélange. Et j'essaye de ne pas alterner les rires et les larmes, mais j'essaye de faire en sorte que ça vienne en même temps. Voilà. La même histoire peut faire rire certaines personnes par dérision, et peut faire pleurer. Donc les lecteurs aussi réagissent comme ça.
Et ce qui est étonnant aussi, c'est ce sentiment quand on lit vos livres, Robert Baubert, la colère est très absente de vos livres. On ressent plutôt de la tristesse, parfois un certain désespoir face à des choses qui reviennent. Mais la colère est absente de vos livres. Peut-être Alex, c'est le premier qui est un petit peu en colère.
Oui, elle n'est pas absente, elle est rentrée. Voilà. Je n'ai jamais su faire un film ni écrire contre quelqu'un. Le contre quelqu'un est implicite. Et voilà, il y a des gens qui font des enquêtes, qui vont filmer des gens qu'ils n'aiment pas. Moi, je n'ai pas envie de perdre mon temps à ça. C'est tellement plus agréable d'être avec des gens qu'on aime et de montrer des gens qu'on aime ou qui nous intéressent. C'est tellement mieux et tellement plus enrichissant. On sait que les autres existent, il vaut mieux passer le moins de temps possible avec eux.
Alors votre livre, Robert Baubert, est aussi une déclaration d'amour à Paris.
Hein. Ah oui.
Alors vous êtes vraiment le titi parisien. On vous voit déambuler on voit vos personnages déambuler à Belleville. On les voit dans le 11e arrondissement, dans le 20e. On découvre des rues, des passages. On arpente des escaliers. On a des grandes vues sur Paris. On a l'impression de voir finalement. C'est un livre qui a quelque chose de cinématographique. Donc c'est le livre d'un amoureux de la capitale.
Oui, je suis très parisien, oui, moi j'ai besoin de ma première passion, elle est toujours présente. Vous avez dit c'est un film d'amour, oui, c'est un livre d'amour, oui, moi aussi je fais le. Et c'est un livre d'amour pour les femmes, je crois d'abord, pour Paris, pour le cinéma, pour la photographie, Oui, vous avez raison. Voilà, c'est Paris est présent, et puis à Paris, on y voit des femmes, on rentre au cinéma, et d'ailleurs les gens que j'aime, le cinéma que j'aime, celui de Fulz, il a fait des très grands films d'amour, et puis j'ai été très ami avec Doisneau, avec Willy Renis, et aussi ont beaucoup photographié des gens qui s'aiment, le fameux baiser de l'hôtel de ville. Voilà, je crois que je suis quelqu'un qui aime bien certaines personnes.
Alors c'est vrai, hein, c'est un roman d'amour au pluriel. Alors celle inoubliable de Julie Jim, celle de la mère de Bernard, celle de Bernard également, Bernard qui vit avec Ruth, une histoire qu'ils découvrent tous les deux être impossible. Cette relation entre lui, le juif, fils de déporté, et elle, l'allemande, fille de nazi, c'est donc aussi un livre sur le poids des héritages.
Oui, l'amour impossible, mais peut-être pas tout à fait impossible, puisqu'il lui dit « je reviendrai ». Voilà, ce sont deux êtres qui pourraient s'aimer et qui n'y arrivent pas ou n'y arrivent pas encore, mais ils vont sûrement y arriver.
Alors il y a un autre personnage clé dans votre roman, c'est le cinéma. Donc c'est la magie des tournages, la magie ressentie par le spectateur, celle de la machine à illusion. Et puis vous avez une tendresse très particulière pour les Marx Brothers, qui reviennent d'ailleurs...
Ah
dans
oui.
tous vos films, dans tous vos livres, ils sont toujours là.
Toujours, oui. Oui, même dans ceux qu'on ne va pas voir au mémorial. Oui, surtout pour Harpo Marx. Parce que c'est un personnage pour lequel j'ai une tendresse depuis toujours. Et je suis très content parce que mes enfants aussi. Et quand on me demande quelle est pour moi la meilleure réplique du cinéma, je dis c'est Harpo Marx qui l'a. À un moment donné, il est poursuivi par des gens qui lui veulent beaucoup de mal et il se trouve sur les toits de New York où il y a de la fumée et il se défend en recrachant la fumée par la bouche, un grand jet de fumée comme ça. Et je trouve que c'est une très belle réplique.
Et donc vous avez voulu effectivement, Robert Baubert, rendre hommage au cinéma en général avec ce livre ?
Oui, enfin à certains cinémas, parce que j'aime bien le cinéma, mais j'aime surtout beaucoup, il y a des films que j'ai vus 30 fois, que je vois comme on écoute une chanson et qu'on remet, à l'époque on remettait les aiguilles au début du disque et qu'on écoutait et voilà, il y a un moment donné où de retrouver une émotion, de retrouver un rire, de retrouver des sentiments. C'est aussi agréable, c'est comme de relire un livre. La deuxième fois, on y trouve encore d'autres choses. Et relire un livre, c'est petit à petit entendre la voix de l'auteur. Ce qu'on n'a pas forcément à la première lecture. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut relire tous les livres. Bon. Mais oui, voilà, bon, j'aime beaucoup le cinéma. Et de même que je relis maintenant les livres, je préfère presque revoir des films que j'aime. Alors c'est peut-être un problème d'âge, c'est sûrement d'ailleurs un problème d'âge. J'aime beaucoup revoir des films. Je vais à la médiathèque qui est à côté de chez moi. Et je prends des films que je n'ai pas vus depuis longtemps. Et je les revois avec un bonheur absolu.
Alors Robert Baubert, je rappelle que votre livre s'intitule « On ne peut plus dormir tranquille quand on a une fois ouvert les yeux ». Il est publié donc aux éditions POL. Et j'invite aussi les auditeurs à aller au Mémorial de la Shoah pour voir ou revoir certains de vos documentaires dans la rétrospective qui vous est consacrée là-bas du 30 novembre au 19 décembre. Merci encore. C'était Mémoire vive, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Trois adresses pour nous retrouver et nous réécouter sur Internet. www.radio-rcj.info, le site de la Fondation www.fondationshoah.org, le site des archives de l'émission www.mémoirevive.net. À dimanche prochain.